pour la prédication de la parole de Dieu, à savoir Genèse chapitre 25, les versets 19 à 26, à la gloire de Dieu. Genèse chapitre 25, versets 19 à 26, à la gloire de notre Seigneur.
Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Béthuel, l'araméen, de Padan Aram, et sœur de Laban, l'araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, « S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit.
Amen. Gloire à Dieu. Merci, servante du Seigneur. Nous allons commencer une nouvelle sous-série aujourd'hui, frères et sœurs, à la gloire de notre Dieu, qui s'intitule ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu. Nous allons commencer une sous-série aujourd'hui. Je vais commencer une sous-série dans le cadre de la thématique générale. Et nous sommes sous le regard de Dieu, frères et sœurs. Cette série aujourd'hui, cette sous-série s'intitule « Ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend » d'une vie sous le regard de Dieu. Il y a des choses à apprendre d'une vie sous le regard de Dieu. Et l'histoire du serviteur Jacob et de sa famille, entendons par sa famille, ses parents, et son père et sa mère, ses enfants, son frère et sa propre vie lui-même, nous apprennent concernant une vie sous le regard de notre Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous l'aurez sans doute remarqué, Dieu nous présente dans sa parole une série de personnages bibliques dont la vie nous présente à la fois des mises en garde et aussi des encouragements à persévérer dans la foi. L'histoire de Jacob et de sa famille, mes bien-aimés, qui met en évidence les miracles de la grâce de Dieu et de sa fidélité quant aux promesses de l'Alliance, fait partie de ce plan divin. Dans la portion de lecture dont vous venez de suivre la lecture avec Arce Mikerta, l'auteur nous montre une toute première chose que nous pouvons apprendre, que nous sommes appelés à apprendre, qu'il est besoin pour nous d'apprendre concernant la vie sous le regard de notre Dieu. Cette chose est la suivante. La vie que Dieu bénit n'est pas exempt de problèmes. La vie que Dieu bénit n'est pas exempt de problèmes. C'est cette toute première leçon que nous pouvons apprendre d'une vie sous le regard de Dieu à travers l'histoire de Jacob et de sa famille. En lisant Genèse chapitre 25, versets 19 à 26, frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous empêcher, en tant qu'observateurs attentifs, de nous souvenir de l'histoire de Genèse 12, versets 1 à 3, qui amorce le processus de la vocation et de la bénédiction d'Abraham, le père de Isaac. Dieu appelle Abraham, donc, il le place sous son regard. Dieu lui promet de faire de lui une grande nation et de bénir tous les peuples de la terre à travers lui. Dieu inaugure l'accomplissement de sa promesse, frères et sœurs, vous connaissez l'histoire, en donnant à Abraham et à Sarah, sa femme, un enfant dans leur blanche vieillesse, à la personne d'Isaac. À la mort d'Abraham, qui est béni par Dieu, Dieu fait reposer sa bénédiction sur Isaac en tant que lignée choisie. Dans Genèse 25, le verset 11, il est écrit, « Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. » Notez bien, Dieu bénit Isaac, son fils. Isaac est béni par Dieu, frères et sœurs. Rappelez-vous la leçon que le Saint-Esprit nous apprend, veut nous apprendre à travers cette histoire. Une vie bénie par Dieu n'est pas nécessairement une vie sans tracasserie, sans trouble, sans tracas, sans problème, sans difficulté. Dieu bénit Isaac après la mort d'Abraham, Genèse 25, le verset 11, mes bien-aimés. Cela veut dire qu'Isaac est maintenant celui qui porte toutes les bénédictions et toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, son père. Isaac est sous le regard de Dieu. Il est béni par Dieu, je le répète encore une fois, frères et sœurs, et c'est voulu. Pourtant, mes bien-aimés, d'après les versets 19 à 21, Rebecca, la femme d'Isaac, l'homme qui est béni par Dieu, mes bien-aimés, l'homme qui est sous le regard de Dieu, est resté sans enfant pendant 20 ans. Isaac, l'homme qui est béni par Dieu, a 40 ans, quand il épouse sa femme Rebecca. Les hommes se mariaient généralement avant 20 ans, en ce temps-là, frères et sœurs. L'auteur précise ensuite qu'Isaac a 60 ans quand Rebecca, sa femme, son épouse, accouche pour la première fois, Genèse 25 et verset 26. Quand nous relatons ces longs délais, comme cela, frères et sœurs, juste en les lisant dans la Bible, ça peut paraître de rien, ça peut paraître normal, ça peut paraître simple. Mais pour cet homme qui est béni par Dieu, pour sa famille élargie, pour sa femme, ses amis, son entourage, ses voisins, ce n'était pas aussi simple que nous pourrions le penser aujourd'hui, frères et sœurs. Il devait certainement y avoir des questions qui commençaient à se poser. Il devait certainement y avoir des doutes quant à sa vocation d'être héritier principal de la promesse, ou plus directement, des doutes sur le fait qu'il soit béni par Dieu. Est-ce que c'est vrai? Cet homme est béni par Dieu? Est-ce que c'est vrai, ce pasteur, c'est Dieu qui l'appelle? Est-ce que c'est vrai, je suis une servante de Dieu? Est-ce que c'est vrai, je suis un serviteur de Dieu? Où sont les bénédictions même? Est-ce que l'Église est là? Non seulement, il est marié 20 ans plus tard que la plupart des hommes de son temps, mais après son mariage, il a dû attendre 20 ans avant d'avoir des enfants. Ça aussi, c'est pas normal. Voilà pourquoi je vous dis que la vie que Dieu bénit sous son regard n'est pas nécessairement une vie sans problème, sans tracas, sans temps d'attente. La même chose était arrivée aux parents d'Isaac, vous connaissez l'histoire très bien, à savoir Abraham et Sarah. Mais là où Abraham et Sarah avaient fait toutes sortes de combines, toutes sortes de choses folles pour avoir l'enfant promis par Dieu avant le temps fixé dans l'agenda divin, dans l'agenda de Dieu, Isaac, lui, a pris le bon chemin. Le texte dit au verset premier, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile et l'Éternel l'exauça, frères et sœurs. Quelle belle nouvelle! Isaac implora l'Éternel pour sa femme Rebecca, alors, car elle était stérile et, Dieu merci, l'Éternel l'exauça. Il ne cherche pas à forcer la main de Dieu. Il a prié. Je suis sûr que Isaac a prié longtemps, le texte le montre, et il a prié très fort, il a dû jeûner. Jésus lui-même n'a-t-il pas dit qu'il y a des problèmes ou rien? C'est pas prier encore qu'il faut prier, il faut jeûner. Il attendait et faisait confiance à Dieu pendant ce long temps de prière et de gémissement. Dans toute situation semblable, frères et sœurs, les chrétiens comme vous et moi, nous sommes appelés à faire la même chose qu'Isaac. C'est ce que l'Église de Dieu, elle aussi, a besoin de faire pour voir des âmes perdues venir au salut, à la repentance et faire prospérer l'œuvre que le Seigneur nous confie. 20 ans, frères et sœurs, dans ce contexte, constitue une longue période d'attente faite d'angoisse et d'incertitude, de doute, de questionnement. Il y en a qui ont attendu plus longtemps encore. D'autres sont morts sans avoir vu l'exécution, l'exaucement de leurs supplications. Parfois, c'est l'autre monde qui a une réponse prière que bon Dieu pral voyer pour moun sa yo qui bénit sous son regard. Avec Dieu, parfois c'est comme ça, ça marche. Si vous pressez avec bon Dieu, vous mettez point devant. Est-ce que ça va, frères et sœurs? Maintenant, l'oratoire. Imaginez leur joie après 20 ans d'attente. Lorsque Dieu a répondu à leur prière et que Rebecca est finalement tombée enceinte. Mais alors que Rebecca est devenue enceinte par la grâce du Seigneur, alors qu'elle porte dans son ventre une bénédiction éternelle, les ennuis, les troubles, les tracas, les problèmes, eux, n'ont pas cessé pour autant. Au contraire, de ce que je comprends du texte, ils se sont accentués, frères et sœurs. À peine un problème résolu, un autre problème surgit. Regardez le verset 22. Les enfants se heurtaient ou bien se frappaient, on pourrait même dire s'écrasaient dans son sein. C'est quoi ça, mes bien-aimés? C'était comme si une guerre se tenait dans son ventre. Cette situation était à la fois inconfortable et terrifiante pour Isaac, mais surtout pour son épouse, car c'est elle qui portait les enfants, à savoir Rebecca. Frères et sœurs, Isaac est béni par Dieu. Il a la vocation, il a l'appel de Dieu sur sa vie. Et pourtant, comme si le mariage tardif, quant aux hommes, bien entendu, comme si le mariage tardif d'Isaac et les 20 ans d'attente d'un enfant par le couple ne suffisaient pas comme problème, il faut maintenant que les enfants se heurtent dans le sein de son épouse. Oh, la famille est une famille bénie, encore une fois, je le redis, parce que c'est là que régit, c'est là que gît toute la leçon à apprendre de cette histoire. C'est une famille bénie. Ils sont des enfants de Dieu, c'est un homme de Dieu, c'est une femme de Dieu, c'est un homme de prière. C'est une femme consacrée, c'est une femme de prière. Et non seulement ils sont bénis, mais ils incarnent par leur vocation la destinée et la bénédiction de tout un peuple. Que se passe-t-il alors, frères et sœurs? Qui genre bon Dieu travaille comme ça, même lui-même, bon Dieu lui-même? Comment bon Dieu travaille comme ça, même? Rebecca se demande, pourquoi est-ce que cela m'arrive? Je comprends. Je comprends sa question. Je me rallie à sa démarche. Elle interroge le Seigneur dans sa détresse. Au verset 23, l'oratoire, le Seigneur explique ce qui se passe, comme lui seul est capable de le faire. L'Éternel lui dit, « Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Dieu est souverain, mes bien-aimés. Dieu sait ce qu'il fait, mes bien-aimés. Dieu a des raisons que la raison ne connaît pas, mes bien-aimés. C'est la chose de base que chaque église, chaque famille, chaque enfant de Dieu, chaque homme de Dieu, chaque femme de Dieu, chaque jeune doit savoir dans sa marche avec Dieu, sous le regard de Dieu. Sinon, les choses vont prendre parfois des tournures tellement étranges, des tournures tellement bizarres, des tournures tellement inhabituelles, singulières, incompréhensibles, des tournures même menaçantes, que l'on peut se demander, est-ce que c'est vrai que je suis enfant de Dieu? Est-ce que c'est vrai que je suis enfant de Dieu? Est-ce que c'est vrai que c'est l'Église de Dieu? Est-ce que c'est vrai que c'est une famille de Dieu? Est-ce que c'est vrai que Dieu m'a choisi? Ce verset, le verset 22, où Dieu révèle, eh bien, une partie de son dessein divin, de son dessein merveilleux et grandiose à travers cette épreuve. Eh bien, ce verset est un oracle divin. Ce verset, c'est une prophétie divine, frères et sœurs, qui explique tout ce qui va se passer dans la suite du plan de salut, dans la suite du livre de la Genèse, à savoir le plus grand, l'oratoire, peuple du Seigneur, sera assujetti au plus petit. Ou du moins, le plus grand sera au service du plus petit. Mais ça aussi, c'est un autre problème pour Rebecca. Aussi simple que cela puisse paraître, c'est encore une autre difficulté, frères et sœurs. Ça lui fait le quatrième problème, la quatrième situation embarrassante, alors qu'elle est bénie, alors qu'Isaac est béni sous le regard divin. C'est un autre problème. Ce n'est pas vrai que c'est rien, ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ainsi que la vie est censée fonctionner. De leur temps, le plus grand n'est pas censé être assujetti au plus petit. Ça va faire la risée de tout le monde dans le quartier, dans la ville. C'est un problème pour lui-même. Comment il va gérer les sentiments, la susceptibilité du plus grand? C'est un autre problème qui se rajoute à leur problème. Dans la culture de l'époque, le premier-né n'est pas appelé à être assujetti au suivant. Plus tard, l'accouchement confirme la prophétie divine. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom d'Ésaü. Verset 26. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Donc, la supplantation est amorcée, frères et sœurs, à travers même la naissance, mes bien-aimés. Wow! La lutte vient de commencer entre le plus petit et le plus vieux. J'aurais pu continuer l'exégèse du passage, mais nous avons un temps pour commencer et un temps pour finir. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. Comme Isaac et Rebecca, vous et moi, Dieu nous appelle et il nous a placés sous son regard pour nous bénir. Quand je dis pour nous bénir, en fait, il nous a déjà bénis. Paul nous dit dans Éphésiens 1, le verset 3, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je répète, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais lorsque nous décidons de vivre par la foi, selon les promesses de bénédiction de Dieu, lorsque nous décidons de vivre dans la bénédiction de Dieu, au lieu de ce que nous voyons, lorsque nous décidons de vivre par la foi, au lieu de vivre selon ce que nous voyons maintenant avec nos yeux physiques, Dieu nous demande de marcher par la foi au lieu de marcher par la vue. Lorsque nous décidons d'être des gens bénis par Dieu, sous son regard, eh bien, nous avons besoin de nous attendre à ce que la vie prenne parfois une allure précaire. Je répète, nous sommes bénis par Dieu. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais malgré cela, nous devons nous attendre à ce que la vie prenne parfois une allure précaire. La vie peut prendre parfois une allure blême, une allure terne, une allure sombre, une allure lugubre, une allure difficile, une allure morose, même si nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est l'abécédaire de la vie chrétienne. Dieu lui-même, l'oratoire, peuple du Seigneur, permettra plus souvent qu'autrement que notre vie, eh bien, soit faite de difficultés, de tracas, ou prenne une allure morose, une allure blême, une allure difficile. Mais quand cela arrive, de grâce, que votre vie ne se trouble point. N'ayez pas peur quand votre vie est entre les mains du Seigneur. N'ayez pas peur de précarité. N'ayez pas peur de problèmes. N'ayez pas peur de troubles, de difficultés, de maladies ou pas. Vous êtes sur le chemin de la bénédiction du Seigneur, dans les bras tendres et salutaires de votre Dieu. Vous êtes sous le regard de votre Dieu. Pareil, frères et sœurs. Remarquez ce qui est arrivé dans le texte l'oratoire. Dieu permet qu'Isaac se marie tardivement. Il permet que Rebecca soit stérile. Deuxième problème. Il permet qu'il y ait rivalité entre Jacob et Ésaü, et cela dès le sein maternel. Il ordonne quelque chose qui est culturellement et socialement anormal, à savoir que le plus jeune surpasse le plus vieux. 4 problèmes dans un. Tout cela constitue, frères et sœurs, des difficultés importantes sur le chemin de la bénédiction que Dieu a promise à Abraham, à Isaac et à Jacob, et à tout un peuple par extension. Mais qu'à cela ne tienne, c'est par ce chemin difficile, c'est par ce chemin périlleux, c'est par ce chemin assommant que Dieu veut passer ou cheminer pour accomplir ses promesses de bénédiction envers Isaac. Laissons Dieu, Dieu, frères et sœurs. Quand j'étais au séminaire, il y avait un enseignant pasteur qui nous disait ça. Laissons Dieu, Dieu, frères et sœurs. Prions que Dieu nous fasse la grâce de le laisser Dieu. Prions que Dieu nous fasse la grâce, eh bien, de le laisser dans sa sagesse s'occuper du quoi, s'occuper du qui, s'occuper du comment, s'occuper du pourquoi et s'occuper du quand lorsque nous faisons face à des problèmes en étant bénis sous son regard. Parfois, frères et sœurs, Dieu nous laisse comprendre sa trajectoire, son parcours, son chemin, là où il passe. Parfois, il nous le laisse comprendre. D'autres fois, il ne nous le laisse pas comprendre. C'est seulement nous regardons, nous voyons que nous sommes au milieu du feu, que nous sommes au milieu de la tempête. Nous ne savons pas pourquoi, d'où ça vient. Parfois, il nous laisse le voir. D'autres fois, il ne nous laisse pas comprendre. Et pour nous, cela doit être correct, frères et sœurs. Que Dieu décide de nous laisser comprendre ou pas son plan, eh bien, ça doit être correct pour nous parce que Dieu, lui, il sait déjà, il comprend déjà ce qui se passe. Ce n'est pas vous et moi qui avons besoin de comprendre. C'est Dieu qui a besoin de comprendre. Et une fois que Dieu comprend, ça doit nous suffire, frères et sœurs, mes bien-aimés, et que le Seigneur nous fasse la grâce de nous soumettre à lui, quel que soit le chemin que Dieu désire emprunter pour accomplir ses plans dans notre vie, frères et sœurs. C'est bon Dieu qui connaît qui chemin il voulait passer. Courbons-nous, agenouillons-nous, soumettons-nous, eh bien, à la volonté, devant la volonté de Dieu. Dieu peut permettre que le travail soit perdu. Je crois l'avoir déjà dit ici. Dieu peut permettre, eh bien, que le travail soit perdu. Si c'est conforme à son plan de bénédiction pour un serviteur ou une servante, cela ne signifie pas que nous ne sommes pas bénis pour autant. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas la foi pour autant. Cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour autant. Dieu peut permettre que telle ou telle occasion ou opportunité soit manquée. Ce n'est pas parce que nous manquons de foi nécessairement. c'est pas parce que nous n'avons pas prié nécessairement. Il peut permettre qu'une maladie persistante s'installe. Il peut permettre qu'une circonstance désagréable qui amène un certain chagrin dans ta vie arrive. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas appelé pour ça, que tu n'es pas un pasteur appelé, une famille appelée, un homme appelé, une femme appelée pour autant, une église du Seigneur pour autant. C'est pas parce que le Seigneur n'est pas au milieu de nous pour autant. C'est que le plan de Dieu est insondable. La pensée divine est insondable. Les trajectoires de Dieu sont souvent incompréhensibles. Tout cela, frères et sœurs, Dieu peut le permettre afin que nous ne puissions pas voir comment sa bénédiction viendra. Aha, ça paraît un détail pour vous et moi. Dieu s'arrange, plus souvent qu'autrement, que nous ne puissions pas voir comment sa bénédiction va venir. Pourquoi? Pourquoi c'est important pour Dieu parfois de s'arranger que nous ne soyons pas capables de voir comment la bénédiction va venir? Eh bien, c'est important afin que nous puissions marcher et vivre par la foi. Aha. Sinon, où est qui j'en ai béni? Sinon, où est route là? Si tout est clair, donc pour Dieu, il faut que ça soit sombre, il faut que ça soit lugubre, il faut que ça soit incompréhensible, troublant d'abord. C'est alors que nous allons comprendre que c'est lui-même qui agit. Il veut que nous puissions marcher par la foi. Pour grandir dans la foi, frères et sœurs, ce n'est pas de tout comprendre. Hein. C'est quand nous sommes toujours dans l'incompréhension, dans des cas extrêmes, que Dieu nous tire de ces cas extrêmes, de ces situations extrêmes. C'est de cette façon, c'est de même que la foi grandit. La foi ne grandit pas dans la facilité. La foi ne grandit pas dans la clarté. La foi grandit justement comme ça, frères et sœurs, afin que nous soyons chaque jour davantage enracinés dans la foi et le service de Dieu. En d'autres termes, frères et sœurs, c'est dans la lutte que la foi se développe. C'est dans la lutte que la foi s'affermisse. C'est dans la lutte que la foi se fortifie. C'est dans la lutte que nous apprenons à chérir la vie sous le regard de Dieu. C'est dans la lutte que nous pouvons apprendre à valoriser les promesses et les bénédictions de Dieu. C'est dans la lutte que nous pouvons, frères et sœurs, nous accrocher aux promesses de Dieu. C'est dans la lutte que nous pouvons continuer à marcher avec Dieu. C'est dans la lutte, mes bien-aimés, que nous pouvons continuer à croire que si Dieu est tout ce que nous avons, eh bien, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Si Dieu est tout ce que nous avons, eh bien, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous ne pouvons pas comprendre cela quand nous comprenons tout, quand tout est clair. C'est quand c'est sombre autour de nous et puis nous avons finalement la lumière, eh bien, nous éclaire, nous voyons le bout du tunnel. C'est à ce moment-là, nous gardons route dans notre passé, c'est là que nous connaissons qui est mon bon Dieu, frères et sœurs. Dès lors, quand Dieu lui-même semble compliquer la vie qu'il a bénie sous son regard, je répète, quand Dieu lui-même semble compliquer, ce n'est pas vrai, il permet des choses, mais ce n'est pas lui qui le fait. Mais quand il semble compliquer la vie qu'il a bénie sous son regard, je nous encourage, je m'inclus là-dedans, pas juste toi, je nous encourage à faire ce que Isaac et Rebecca ont fait, à savoir prier Dieu, consulter l'Éternel, passer en revue les promesses de Dieu, frères et sœurs, et cela dans la prière, à genoux, dans le gémissement, dans des veilles de nuit, dans des jeûnes de prière, le mercredi soir, dans tes prières personnelles à la maison, passer en revue les promesses de Dieu. Dites-lui encore et encore que vous mettez toute votre confiance en ses promesses. Dites-lui que vous n'avez pas de plan B. Dis Seigneur, m'pa gen plan B dans sa mie là. Et je refuse d'avoir des plans B. Je refuse de prendre les choses en main. Une fois que vous aurez fini de dire cela à Dieu, attendez et faites confiance à Dieu. Car sous le regard de Dieu, la vie que Dieu bénit n'est jamais sans problème, mais Dieu est toujours là avec la vie qu'il bénit dans les problèmes que cette vie rencontre. Est-ce que l'Église est là, frères et sœurs? Mais quand ces choses, quand ces problèmes arrivent, nous avons besoin de nous attacher plus fermement aux promesses de Dieu. Nous avons besoin de nous tourner vers Dieu dans la prière pour lui demander de renouveler notre force intérieure puissamment par son esprit, frères et sœurs. Et surtout, rendre grâce à Dieu. Quand nous sommes au cœur de la tempête, prions que Dieu nous fasse la grâce de ne pas laisser l'amertume et le découragement écraser notre élan d'adoration, notre élan de louange, notre élan de service, notre élan d'amour, notre élan de glorification de notre Dieu. Demandons, eh bien, frères et sœurs, à Dieu qu'il nous fasse la grâce de comprendre que même lorsque nous avons l'impression de ne pas le voir à l'œuvre, de ne pas le voir agir, il nous aime. il est là et il veille sur nous. Isaac va commettre plus tard une erreur monumentale, des plus impardonnables dans sa vie. Mais ici, par la grâce de Dieu, il affiche une confiance et bien ferme dans notre Dieu. Pourquoi? Je répète, Isaac va commettre une erreur monumentale dans sa vie plus tard. Nous verrons cela, vous le savez déjà de toute façon. Mais ici, il fait preuve d'un homme de foi. Il affiche une foi ferme dans Dieu qui l'a béni. Pourquoi? Pourquoi il a été capable de faire cela? Et je termine là-dessus. Pourquoi il était capable d'afficher cette confiance? Parce que l'histoire de sa famille lui a appris que Dieu est fidèle. Je répète, parce qu'il a été capable de tenir bon, même s'il va faire une erreur monumentale plus tard, parce que l'histoire de sa famille lui a appris que Dieu est fidèle, que Dieu est bon, que Dieu est souverain. L'histoire de sa famille, l'histoire de son père et de sa mère lui a appris que Dieu tient toujours ses promesses et que Dieu est le grand pourvoyeur par excellence. Souvenons-nous de Genèse 22. L'histoire de Genèse 22, frères et sœurs, est pour beaucoup dans sa formation spirituelle. L'histoire de Genèse 22 est pour beaucoup dans la formation spirituelle d'Isaac. Il se rappelle que quand Abraham, son père, prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son dos, lui, sur le dos à lui, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Il se rappelle que son père lui avait dit que Dieu pourvoirait lui-même de l'agneau sacrificiel, de l'agneau pour l'Holocauste. Ah, frères et sœurs! Oh, si vous ne pas connaissez pas, grand de nos familles chrétiennes qui j'ai obéi. Je connais histoire bénédiction, mon Dieu, histoire intervention, mon Dieu, dans la vie, papa, yo, avec maman, yo. Il se rappelle cette histoire. Il y a des sources extra-bibliques qui disent qu'il avait environ 37 ans quand ça s'est passé. Il avait environ 37 ans. Et on ne sait pas exactement si c'est 37 ans, mais on sait que c'était avant son mariage. Il a vu Dieu à l'œuvre dans la vie de ses parents, plus particulièrement sur le mont Morija. Effectivement, frères et sœurs, vous connaissez l'histoire, Genèse 22. Plus tard, quand sur les lieux du sacrifice, Abraham lia Isaac, le mit sur l'autel par-dessus le bois, étendit la main et prit le couteau pour égorger Isaac. Il a vu que Dieu a pourvu à un bélier pour le sacrifice. Voilà l'histoire qui a permis aujourd'hui à Isaac de regarder à Dieu dans ses épreuves. Mariage tardif. Enfant qui s'écrase, la femme qui est stérile, il a tenu tête parce qu'il a déjà vu Dieu à l'œuvre dans la vie de ses parents. En d'autres termes, le bélier que Dieu a donné à Abraham, frères et sœurs, pour mourir à la place d'Isaac et sauver la vie d'Isaac, a été le garant de la confiance d'Isaac dans la bonté, la fidélité, la providence et la souveraineté de Dieu en ces temps difficiles de sa vie. En préparant le sermon, je me suis dit, s'il en est ainsi du don ou de la provision d'un bélier sur le mont Morija, à combien plus forte raison que le don de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, mourir sur la croix à notre place devait garantir à vous et à moi soutenir, nourrir, alimenter notre confiance dans la bonté, la fidélité et la souveraineté de notre Dieu. Si le fait que Dieu a pourvu en un mouton, en un bélier, pour sauver la vie d'Isaac, ça a servi à alimenter la confiance d'Isaac dans les faveurs de Dieu, dans les bontés de Dieu, à plus forte raison que la mort de Jésus-Christ pour nous, à notre place, la mort par substitution, devrait-elle pouvoir nous rappeler que Dieu sait où est-ce qu'il s'en va, que Dieu sait ce qu'il fait, frères et sœurs? Bien-aimés, nous sommes appelés à faire confiance à la providence de Dieu, non pas parce que nos circonstances sont toujours bonnes ou seront toujours bonnes, mais parce que Dieu a démontré sa bonté, sa souveraineté et sa fidélité à la croix en donnant son Fils pour nous racheter de l'enfer du péché et de la mort. Quand nous sommes et nous réfléchissons à cette histoire, eh bien, nous avançons avec confiance. La croix est faite, frères et sœurs, pour vous donner la vie éternelle. La croix est faite pour vous sanctifier et vous purifier de tout péché, mais la croix est faite aussi pour être le garant de votre confiance en Dieu, malgré un chagrin dans votre vie, malgré une souffrance dans votre vie, malgré une incapacité dans votre vie, malgré une barrière, malgré une montagne devant vous, malgré un obstacle devant vous, malgré une maladie, malgré une angoisse, malgré une privation, malgré un échec réel ou apparent, la croix est faite pour, eh bien, vous amener à la confiance. Voilà pourquoi lorsque nous méditons sur la croix, ou lorsque nous pensons à la croix de Jésus, notre foi ne devrait pas faiblir, et ce même si des problèmes surviennent et que des réponses humaines ne valent plus rien, frères et sœurs, contre nos circonstances adverses. Chaque fois qu'il se passe des choses désagréables dans ta vie, dans ton ministère, dans ta famille, dans ton travail, dans tes finances, dans ta santé, relis l'histoire de la croix. La croix n'a pas de sens pour la plupart de ceux qui vivaient au temps de Jésus avant sa résurrection. Comme le Fils de Dieu, comment le Fils de Dieu pouvait-il mourir sur une croix? Et pourtant, dans le plan de Dieu, la croix avait un but. C'est la vie éternelle garantie à tous ceux qui croient dans la personne et l'œuvre de celui qui est donné pour mourir à la croix. La croix avait un but. C'est la restauration du royaume. Dieu brisé en Éden. La croix a un but, c'est le rachat du peuple de Dieu. La croix a un but, c'est le don permanent du Saint-Esprit au peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Réfugions-nous dans l'histoire, eh bien, de la croix. Redisons-nous l'histoire de la croix. Chaque fois que nous traversons des moments difficiles, frères et sœurs, redisons-nous l'histoire de la croix. Relisons l'histoire de la croix, remémorons l'histoire de la croix. Disons-nous que celui qui a pourvu, pourvoira. Celui qui a pourvu à la croix, pourvoira. Car il sait ce qu'il fait. Il sait ce dont nous avons besoin. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est souverain. Personne ne peut l'empêcher de pouvoir, frères et sœurs bien-aimés. Et au pire, rendons grâce à Dieu en toutes choses. Car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dans les moments de joie, rendons grâce à Dieu, sachant que nous sommes bénis. Sachant que sous le regard de Dieu, nous ne sommes pas seuls. Rendons grâce à Dieu donc, quand les problèmes arrivent, quand les moments difficiles, quand la tristesse arrive. Rendons grâce à Dieu, rendons gloire à Dieu, rendons la louange à Dieu. Disons merci à Dieu, parce que de ce que nous apprenons de l'histoire de la croix, parce que de ce que nous apprenons de l'histoire d'Isaac, plus fait à chaud, plus température a monté sous moi-même avec vous, plus nous parlons bénis devant bon Dieu, plus l'œuvre bon Dieu parle merveilleuse et parle grandiose dans la vie, non, frères et sœurs? Ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu, ce que l'histoire de Jacob et de sa famille nous apprend d'une vie sous le regard de Dieu, c'est mon numéro un de la sous-série. Eh bien, pour aujourd'hui, c'est quoi ça nous apprend? C'est assez clair. C'est pas parce que nous, c'est homme de Dieu, nous, c'est femme de Dieu, nous, c'est pasteur appelé par Dieu, que nous ne pouvons pas rencontrer des problèmes dans différentes sphères de notre vie. C'est ça, cette histoire nous apprend. Nous l'avons vu. 4 problèmes dans un. À chaque fois que nous avons un problème, relisons cette histoire. Et surtout, l'histoire de la croix. Qu'il en soit ainsi pour nos frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.